Voilà. Alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. On ne s'est pas vu jeudi dernier, puisqu'il y avait la journée interdisciplinaire à laquelle la plupart d'entre vous ont participé et même collaboré, mis la main à la pâte. Encore merci à tous ceux qui se sont investis. Nous reprenons notre traversée de la Bible. Nous en étions à la fin de la Genèse. On avait regardé l'histoire de Joseph, une histoire absolument fascinante. Ce pauvre Joseph, pour qui tout va mal, ses frères, le laisse pour mort, le vend à des caravaniers, se retrouve esclave, etc., etc. Eh bien, finalement, les choses vont mieux pour lui, il prospère là où il est chez Potiphar, mais malheureusement, ça n'est que de courte durée, il a le malheur d'être bel homme, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, quand on a toutes les qualités. Du coup, la femme de son maître veut coucher avec lui, il refuse, imaginez, en plus, il a des vertus morales, et il se retrouve en prison. Là encore, il aide tout le monde, il est populaire, il aide ses camarades, il explique les rêves en disant bah, tu me rendras l'appareil quand tu seras sorti de prison. Manque de bol, quand il sort, eh bien, rien. Et finalement, Joseph arrive malgré tout à la cour de Pharaon des années plus tard. On se dit, tiens, mais au fait, il est en train de croupir dans son cachot. Il interprète le rêve du pharaon, qui annonce la famine, qui prédit en fait la famine. Il dit, ben voilà, il faut faire des réserves, puisqu'ensuite une grande famine va venir. Et donc Pharaon lui dit, mais ma foi, tu m'as l'air l'homme de la situation. Et Pharaon confie tout l'empire à Joseph, qui se retrouve donc à bien gérer les choses. Et c'est là qu'il va retrouver sa famille des années après, au moment de la famine. Ses frères viennent, comme la plupart des habitants de Canaan, viennent chercher du grain, du blé en Égypte. Et ils ne le reconnaissent pas, puisqu'entre-temps, Joseph s'est marié avec Asénette, il a des enfants, il parle égyptien, il est maquillé, etc. Donc, il voit un Égyptien maquillé qui parle un Égyptien. Il n'imagine pas un seul instant que ça puisse être leur frère Joseph. Et il va finir, il va jouer un peu avec eux, etc. Et puis, il finit par dire qui il est. On en était au chapitre 45. Et il dit au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Elle dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Ses frères doivent être terrorisés en disant, mince, il est en vie. Non seulement il est en vie, mais maintenant c'est lui qui contrôle tout. Nous sommes morts. Et en fait, pas du tout. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Il dit finalement, le fait que Dieu m'a envoyé en Égypte, ça me permet, moi, aujourd'hui, de gérer tout l'Empire et de sauver les gens de la famine. Si j'étais pas là, finalement, la famine serait là, tout le monde mourrait. Donc, il dit, verset 8, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Donc, Joseph a cette capacité de revenir sur son histoire, sur son passé, de dire, eh bien voilà, tous ces malheurs qui me sont tombés dessus alors que j'avais rien demandé à personne et que moi, j'ai fait de mon mieux pour rester toujours droit, intègre et faire ce qu'il fallait, et plus je faisais les choses bien et moins bien ça allait, en réalité, eh bien, en fait, ça faisait partie des projets de Dieu pour pouvoir sauver non seulement vous, mes frères, ma famille, mais un grand nombre de gens. Du coup, on en avertit Jacob, le père, qui revient et qui s'installe en Égypte avec eux. Alors, je conclue rapidement sur le livre de la Genèse. Au chapitre 49, vous avez donc les paroles de Jacob. Alors, c'est intéressant parce que le chapitre 49 dans ma Bible est intitulé « Jacob bénit ses 12 fils », on dit la bénédiction de Jacob. Ce n'est pas toujours des bénédictions, ce sont des paroles qu'il prononce, c'est souvent des paroles de bénédiction, mais vous verrez que pour certains d'entre eux, ça ne tient pas beaucoup de la bénédiction. En fait, ce sont surtout des prophéties. Ces paroles de bénédiction sont avant tout des prophéties. Jacob va prophétiser l'avenir de chacun de ses 12 fils, qui va être lui-même l'ancêtre de toute une tribu, en fait. On aura les 12 tribus d'Israël. Donc, le chapitre 49 est un chapitre extrêmement important. Il est question de Ruben au verset 3, il est question de Siméon et Lévi verset 5, mais par exemple, si vous regardez Ruben, la bénédiction de Ruben au verset 4, tu n'auras pas la supériorité. Bon, c'est pas une vraie bénédiction ça. Hein. Regardez versets 5 et 6, quand il est question de Siméon et de Lévi, leurs glaives sont des armes de violence, que je n'entre pas dans leur complot, que je ne munisse pas leur assemblée. Donc, vous voyez, c'est pas exactement des paroles. À la fin du verset 7, je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Donc ça, c'est de la prophétie, mais c'est pas de la bénédiction. Verset 8, Judas, tes frères te célébreront, etc. Judas est un jeune lion, verset 9. Là, d'un seul coup, on dit, ah ah, Judas, lui, apparemment, il a un bel avenir. Évidemment, Judas, le lion de Judas, etc., c'est évidemment David, la dynastie davidique, la Judée, la capitale de Judée, c'est Jérusalem. Et donc, verset 10, le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes. Donc, Jacob prophétise ici dans ce texte que finalement, parmi les 12 tribus, quelle est celle qui aura la royauté ? Ce sera la tribu de Judas. Verset 13, il est question de Zabulon. Verset 14, Issachar. Verset 16, Dan, Gad, etc. Je continue. C'est souvent assez court. Verset 22, Joseph. Alors lui, forcément, Joseph, c'est aussi un héros, donc il a le droit d'avoir une belle bénédiction. On dit, voilà, il a souffert, etc. Verset 24, mais son arc est resté ferme. Etc., etc. Et alors là, à ce moment-là, on dit verset 25, « Qu'il te bénisse des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions de l'abîme étendue en bas, des bénédictions des seins du ventre maternel, etc. etc. » Donc lui, il aura toutes les bénédictions. Et puis enfin, on termine avec Benjamin, le petit dernier, le 12e. Enfin, Jacob meurt, ça c'est, voilà, c'était les derniers discours d'adieu de Jacob avant sa mort, avec les prophéties sur chacun de ses 12 fils. Chapitre 50, il est enseveli. Alors c'est intéressant parce que verset 2, Joseph ordonna à ses médecins d'embaumer son père. Ben oui, on est en Égypte, donc du coup on en profite, les Égyptiens ils font des momies. Donc il a le droit d'être embaumé. Et puis tout se passe finalement plutôt bien. Toute la fin de la vie de Joseph se passe bien. Regardez verset 26, Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Un cercueil, comprenez, un sarcophage. Alors, on est en Égypte. Hein. En Canaan, on ne met pas les gens dans les cercueils. Les ossements, on les met dans des tombes, mais on n'a pas de sarcophage. Donc là, on insiste bien sur le fait qu'on est en Égypte, on embaume, on met dans les sarcophages, etc. Et ainsi s'achève le livre de la Genèse. On se dit, mais c'est formidable, tout va très bien. Sauf que, si vous vous souvenez de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était la promesse de la terre où, dans laquelle il se tenait, le pays de Canaan, c'est ce pays-là. Il avait dit dans Genèse 15, oui, mais pas tout de suite, puisque j'attendrai que l'iniquité des Amorites, etc., ait atteint son apogée, son comble, et à ce moment-là, vous pourrez prendre possession. Et donc, cette période en Égypte est comprise, comme elle est interprétée comme étant cette période où Dieu veut que le peuple attende. Et en même temps, c'est le lieu où le peuple va donc réchapper à la famine et le lieu où le peuple va pouvoir devenir un peuple. Puisque pour l'instant, Israël, c'est qui ? C'est une personne, c'est Jacob. Hein, Jacob qui change de nom, qui s'appelle Israël. Donc, quand on parle d'Israël pour l'instant, on parle d'une personne. Un homme avec ses 12 fils, d'accord, ils ont peut-être des femmes, des enfants, c'est pas encore un peuple. C'est un clan, si vous voulez, une tribu. Et petit à petit, évidemment, le peuple va augmenter en Égypte. Et les ennuis vont venir dans le livre de l'Exode. Et c'est le livre que nous allons garder aujourd'hui. Le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible. Le nom français Exode est clair, parce qu'il va être question de l'Exode du peuple. Le peuple qui va quitter, c'est l'Exode, c'est la sortie. Donc il va sortir d'Égypte pour retourner en terre promise. Et c'est ce récit de la sortie d'Égypte qu'on va nous raconter dans le livre de l'Exode. Alors, dans le livre de l'Exode, on va avoir un nouveau personnage, un nouveau héros, ce sera Moïse. Et ce héros Moïse sera le héros des quatre autres livres du Pentateuque. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est Moïse le personnage principal. Donc c'est vrai que dans la Genèse, on a vu Abraham, on a vu Isaac, pas très longtemps, Jacob, pas très longtemps non plus, Joseph, beaucoup. Donc on a vu comme ça des patriarches, ce sont eux les héros, mais finalement, très vite, ils vont s'éclipser, c'est Moïse. D'ailleurs, on se dit finalement, ces quatre livres, si on met la Genèse de côté, ces quatre livres, eh bien, ils forment, d'une certaine manière, une unité autour du personnage de Moïse. La Genèse, elle, vient en complément. En même temps, on peut difficilement lire l'Exode si on n'a pas lu la Genèse avant, puisqu'il faut quand même bien connaître tout le récit des patriarches et expliquer comment les gens sont arrivés en Égypte. Ou alors, il faut s'imaginer qu'il y a des traditions qui situent l'origine du peuple en Égypte, directement. Et ça, c'est une possibilité. Quand je parle des historiens qui essayent justement de regarder quelles sont les origines et d'où viennent ces traditions, on peut imaginer d'une part des traditions mésopotamiennes avec Abraham. Abraham vient d'Ur, c'est en Irak, si vous voulez, aujourd'hui, c'est en Mésopotamie. Et c'est de là qu'il vient, et il fait ce chemin pour arriver jusqu'en terre promise, donc ce serait là l'origine du peuple d'Israël, avec pour patriarche, pour personnage d'origine Abraham, et puis de l'autre côté, des origines venant d'Égypte, alors avec un personnage comme Joseph par exemple, mais surtout un personnage comme Moïse. Voilà. Alors ces deux traditions ne sont pas incompatibles, d'ailleurs elles sont très finement combinées dans le récit qu'on a dans le Pentateuque tel qu'on l'a actuellement. Alors, quand je vous parle de tout ça, je vous parle des théories de rédaction, en disant est-ce que certains textes ont pu être écrits à un autre moment, dans certains milieux, d'autres dans d'autres milieux, et ont finalement été rassemblés, fusionnés pour créer une histoire cohérente. Voyez, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, vous donner des idées sur la façon dont le texte a pu être construit petit à petit. Toujours est-il qu'au final, le texte qu'on a sous les yeux, ben, c'est celui-là, et le lien se fait de telle sorte que les Israélites, donc Israël, c'est-à-dire Jacob et ses enfants sont là, ils prospèrent en Égypte, ils s'installent là, les choses vont bien pour eux, sauf que ça va mal se passer. Au chapitre 1er de l'Exode, on nous dit que malheureusement, après cette période, cet âge d'or en Égypte, eh bien, vient un autre roi, verset 8, qui se plaint. Verset 9, il dit à son peuple, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Alors, il n'est pas content. Du coup, verset 11, il décide de les assigner à des travaux forcés, les affliger par des corvées, etc., etc. On les fait construire, on les met dans le bâtiment, dans le BTP. Et donc, on les astreint à l'esclavage. Et comme ça ne suffit pas, on se dit il faut limiter, c'est le contrôle de la population. Comment on dit ça, le planning familial, quand l'expression politiquement correcte. Alors, il y a des solutions plus efficaces encore que les solutions chinoises pour le planning familial. C'est simplement, ben voilà, à l'accouchement, si c'est un garçon, vous le faites mourir. Verset 16. Et là, donc, en principe, forcément, si vous tuez tous les mâles, ben, la population va vite diminuer. C'est là que notre héros va naître, Moïse. Sa mère ne veut pas qu'il meure, donc elle le cache. Parce qu'elle est beau. Regardez chapitre 2, verset 2. Elle mit au monde un fils, elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3, ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poids, elle mit l'enfant et la déposa parmi les gens au bord du Nil. Et donc, elle se sépare de son fils en disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire? On va finir, j'ai réussi à le cacher, mais là, c'est plus possible. Donc, elle le met dans une sorte de berceau comme ça, et à la dérive, elle va le rendre étanche. Hein, le bitume et la poix, ça sert à rendre la caisse étanche. Et elle le met comme ça en disant, voilà, je m'en remets au Dieu. Et puis, il est recueilli par la fille du pharaon. Alors, cette petite histoire, elle n'est pas unique. En fait, Sargon, qui est un roi sumérien, alors un empereur, même, parce qu'on dit que c'est même le plus ancien empire, eh bien, il y a ce récit de la naissance miraculeuse de Sargon, etc. etc. Donc, alors, en fait, c'est un récit qui est raconté par Sargon II, qui est donc un roi néo-assyrien qui a pris le nom de Sargon Ier. Parce que Sargon Ier s'appelait Sargon tout court. Et un autre a dit, c'est comme si moi je prenais comme nom de roi, le nom d'un roi célèbre. Voilà. Bon, il a fait ça. Et donc il développe cette histoire pour raconter que finalement il a été choisi par les dieux. En disant, voilà, j'ai une destinée exceptionnelle. C'est l'idée de mettre en avant la destinée exceptionnelle qui l'attend. Donc cette histoire de Moïse sauvé des eaux, etc., etc., en fait, elle n'est pas unique. Vous avez un parallèle mésopotamien avec pour personnage non pas Moïse, mais le roi Sargon. Toujours est-il que Moïse est élevé à la cour du roi, il grandit, devient adulte, et il finit par s'enfuir parce qu'à un moment donné, il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. Donc il s'installe et il va au pays de Madian, verset 15, chapitre 2, verset 15. Il épouse une des filles du prêtre de Madian. Alors ce prêtre, on le retrouvera, hein. Il s'appelle Réuel ici, verset 18, mais en fait il s'appelle Jéthro, un peu plus loin. Donc il se marie avec une certaine Séphora, verset 21. Et c'est là, alors que Moïse donc a fui sa destinée royale, Moïse est élevé à la cour de Pharaon, imaginez le faste, l'éducation, un lettré certainement, enfin bref, il se retrouve berger dans le désert, à paître le petit bétail de son beau-père, chapitre 3, verset 1er, Jéthro. Et c'est là qu'il emmène le bétail au-delà du désert jusqu'à la montagne, il arrive à la montagne de l'Horeb. Et là, il fait une rencontre avec Dieu. On a droit à une théophanie, c'est-à-dire une manifestation, une apparition divine. Sous la forme d'un buisson qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, et qui n'arrête pas de se brûler. Alors si vous mettez le feu, normalement, ça finit par brûler, au bout d'un moment, il ne reste plus que descendre. Eh bien non, il brûle, sans s'arrêter. Et Dieu lui parle, et Dieu se révèle à lui. Et il lui dit, voilà, verset 7, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris. » Verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer. » Vous voyez, Dieu n'est pas omniprésent, hein, il faut qu'il descende. Et il va délivrer pour amener le peuple dans la terre promise. Donc, il lui dit, verset 10, « Va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. » Donc, Moïse reçoit cette vocation, cet appel à être le leader du peuple et à sortir le peuple d'Égypte. Et là, Moïse commence à discuter. Plutôt que d'embrasser sa destinée fabuleuse, il dit attends, pas si vite, pas si vite, pas si vite. J'ai des questions d'abord. Il va y avoir tout un dialogue dans la deuxième partie du chapitre 3 sur le nom de Dieu. Qui es-tu ? Parce que des dieux, il y en a beaucoup. Les Égyptiens en ont plein. Quel est ton nom ? Et c'est là que Dieu va lui révéler son nom. Et en lui disant, mon nom, c'est Échié. Et puis, il dit au verset pronoms, aux versets suivants, mon nom, c'est Yahvé. Donc, on a dans ce passage-là l'explication, en tout cas une explication du tétragramme. Le rédacteur de ce texte dit, tiens, notre Dieu s'appelle Yahvé. Alors, Yahvé, on n'est pas très sûr de la prononciation. Hein. Comme les Juifs, au bout d'un moment, n'ont plus prononcé le nom de Dieu, la prononciation est hypothétique. Yahvé est une possibilité, il y en a d'autres. Bon. Admettons que ce soit Yahvé. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il s'appelle comme ça ? Les noms propres, ils ont un sens. Moi, je m'appelle Michaël, Michaël en hébreu, ça veut dire qui est comme elle, par exemple. Hein ? Tu t'appelles Daniel, ça veut dire Dan est Dieu, ou alors Dieu est mon juge. Bref, les prénoms, ils ont des significations. Yahvé, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un rédacteur dit, Yahvé, en fait, ça veut dire il existe, il est. Pour lui, il voit que ça vient du verbe être, et que Dieu est celui qui existe ou qui fait exister. Donc, c'est l'être par excellence. Et donc, il lui donne un autre nom, Échié. Alors, on ne sait pas si c'est un nom véridique. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui ont appelé Dieu Échié à un moment donné, ou est-ce que c'est juste une construction du rédacteur de ce texte ? Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre occurrence de ce nom. Mais en tout cas, il lui explique, voilà, et c'est là qu'on a cette phrase, « Je serai qui je serai », traduit dans la Bible, « Échié, Asher, Échié, je suis qui je suis, je suis Échié. » Donc, tu diras aux Israélites, « Échié m'a envoyé vers vous », ou « Yahvé m'a envoyé vers vous ». Alors il lui explique, il dit « T'inquiète pas, ça ne va pas être facile. Verset 19, « Je sais bien, moi, que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'y aller, même sous l'action d'une main forte. J'étendrai alors la main et je frapperai l'Égypte en y faisant toutes sortes de choses étonnantes. Après cela, il vous laissera partir. » Donc Dieu annonce que ça ne va pas se passer facilement, qu'il va y avoir justement des plaies, etc., etc. Alors Moïse, d'accord, bon, tu m'as expliqué qui tu es, comment ça va se passer, mais quand même, chapitre 4, verset 1er, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. » Alors du coup, Dieu dit, bah voilà, va faire un signe. Prends ton bâton, tu le jettes, il devient un serpent. Donc, il y a des prodiges pour montrer ce qui se passe. Et puis ensuite, il continue. Verset 10, Moïse continue à se plaindre. « Ah, je ne suis pas un homme à la parole facile. J'ai la bouche et la langue pesante. » Il ne peut pas parler. Il ne sait pas bien parler. Ce n'est pas un bon orateur. Alors Dieu s'énerve en disant, mais qui a donné une bouche à l'être humain ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, Yahvé ? Donc Dieu dit, écoute, tu te plains que tu ne sais pas bien parler, mais moi je te dis qu'avec moi il n'y aura pas de problème. Mais non, Moïse, pardon Seigneur, verset 13, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre qui tu voudras. Alors du coup, Dieu s'énerve, d'ailleurs verset 14, le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Il dit, bon, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère ? Il n'y a pas Aaron, ton frère, là ? Bon, voilà, il va faire ça. Donc, verset 16, il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, tu seras son Dieu. Donc, il fait de Moïse le Dieu d'Aaron. C'est original comme expression. En disant, c'est Moïse qui donne des ordres et Aaron qui parle. Donc, Moïse ce débat, il essaye, il fait tout ce qu'il peut pour dire non, pas moi, non, je sais pas ceci, et pourquoi pas machin, etc. Ça marche pas, Dieu répond à chaque fois, et ils finissent par trouver le compromis, c'est qu'ils fonctionneront en duo avec Aaron. Du coup, Moïse et Aaron, chapitre 5, se retrouvent chez Pharaon, et ils disent « Laisse partir mon peuple ». Le Pharaon répond verset 2 « Mais qui est Yahvé pour que je l'écoute en laissant partir Israël ?» Je ne connais pas Yahvé. Il dit « Moi, des dieux, j'en connais beaucoup, vous me parlez de Yahvé, moi, je ne connais pas si Yahvé. » Donc, ça fait écho, évidemment, au chapitre 3, verset 14. Comme prévu, le roi d'Égypte ne se laisse pas faire. Au contraire, il s'énerve, puisque c'est comme ça, ça va être encore pire. Verset 7, vous donnerez plus comme d'habitude de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Du coup, il augmente la charge de travail des peuples. Il accable les gens. Alors évidemment, le peuple se plaint en disant à Moïse, t'es venu soi-disant nous sauver, mais notre situation est pire qu'avant. À la fin du chapitre 5, vous nous avez rendu odieux au Pharaon et aux gens de sa cour, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Moïse revint vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. » Donc Moïse dit « Pourquoi tu m'as envoyé? Déjà, je ne voulais pas y aller, en plus tu m'envoies, ça ne marche pas. » Le Seigneur répond, chapitre 6, verset 1er, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. » Autrement dit, Dieu dit « T'inquiète pas, c'est prévu, je vais avoir l'occasion de déployer ma puissance et faire des prodiges. » C'est une façon pour Dieu de se faire connaître. D'ailleurs, il dit, à la fin du verset 3, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous le nom de Yahvé. » Donc il dit, voilà, maintenant je vais me faire connaître sous ce nom Yahvé. Et c'est important, il dit verset 7, « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis Yahvé. » Donc il y a cette notion de dire, bah voilà, maintenant vous allez faire votre propre expérience, le peuple ne me connaît pas. Ça fait des générations que le peuple est en Égypte, ils ont entendu parler Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc., mais ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis, et ils n'ont pas vu ce dont je suis capable. Donc en fait, cet endurcissement de Pharaon, le fait que Pharaon ne vous laisse pas partir, ça me donne l'occasion de prouver que je suis un Dieu puissant. Parce que finalement, si Pharaon donne son accord tout de suite, Moïse va voir Pharaon, s'il te plaît, laisse-nous partir, Pharaon dit, eh bien voilà, dans ma grande montée, dans ma grande magnanimité, j'autorise le peuple d'Israël à sortir. Finalement, qui est glorifié dans cette affaire? Pharaon. Pharaon, on pourra écrire et ériger une stèle en disant, en l'honneur de Pharaon, le roi le plus magnanime de tous les temps, etc., etc. Et à qui il faut dire merci? À Pharaon. Alors que si Pharaon s'entête, refuse, et que Dieu fait des miracles, et que Dieu contraint Pharaon à laisser sortir le peuple, qui est glorifié? Dieu. Et le peuple a l'occasion de voir de leurs yeux vus ce dont Dieu est capable. Donc ils font leur propre expérience de Dieu. Donc c'est ça en fait le but du jeu, et c'est exactement ça qu'on va voir dans les chapitres qui viennent. Et c'est pour ça qu'il va y avoir toute la liste des fléaux, les 10 fléaux, les 10 plaies, les fameuses 10 plaies d'Égypte. Oui, alors sauf que là, dans le récit, si tu regardes les récits des fléaux, le problème ne vient pas du peuple. Hein. C'est pas le peuple qui ne croit pas, c'est le pharaon à chaque fois.
Oui,
non,
c'est les dieux,
Oui. Ah oui, mais ça marche par 10. Tu sais, il faut des chiffres ronds. Les chiffres ronds, c'est 7, 10, 12, 2, 3, ça marche pas. Non, c'est désolé, mais. Ça c'est des procédés rhétoriques de narratologie. Hein, quand on crée des récits narratifs, tout ce qui est divin, etc., il faut des chiffres. Ça aurait pu être 7. 7, ça m'aurait été. Bon, c'est 10, quoi. Mais par exemple, il y a 10 paroles de création au début, il y a les 10 commandements, il y a les 10 fléaux, il y a 10, 10, 10. C'est des chiffres ronds, quoi, si tu veux. Donc, cela dit, la répétition elle-même montre l'obstination. C'est vrai, elle est là pour montrer. Et puis, ça donne l'occasion à Dieu de donner différents types de fléaux qui peuvent être mis en relation avec différents types de la vie, différents types de la religion, différents aspects de la vie religieuse, etc., etc. Certains ont voulu voir dans chacune des 10 plaies une divinité égyptienne qui était visée en particulier. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça de dire les 10 plaies correspondent chacune à une divinité en particulier. Mais cela dit, il y a le côté... comme nous, on dirait 36, quoi. Ça veut dire, c'est l'idée de complétude, disons. Mais cela dit, il le dit très clairement, au chapitre 7, verset 1er, le Seigneur dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, Aaron, ton frère, sera ton prophète, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, etc. Verset 3, je ferai en sorte que le Pharaon s'obstine et je multiplierai mes signes et mes prodiges en Égypte. Verset 5, ainsi les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. Et dit pas ainsi les Israélites sauront. Les 10 plaies, elles visent les Égyptiens. Toute la période dans le désert visera le peuple. Là, c'est l'obstination du peuple qui sera visée quand on regardera ce qui se passe dans le désert. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre de alors, je vais les passer, chapitre 7, le premier, deuxième, chapitre 8, on passe au troisième, chapitre 4, chapitre 8, encore le quatrième, cinquième, chapitre 9, le sixième, le septième, chapitre 9 toujours, le huitième, chapitre 10, etc., etc., le neuvième, les ténèbres, et puis, chapitre 11, on arrive enfin au dixième. Le dixième, le dernier, le pire. La dixième plaie, le dixième fléau, c'est la mort de tous les premiers-nés. Verset 4, en pleine nuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront depuis le premier-né du Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Donc, c'est un fléau terrible, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Et pour que les Israélites soient préservés de ce fléau, ils doivent rester chez eux, se calfeutrer si vous voulez, et mettre du sang sur les linteaux et sur les bâtons de porte. Sur les montants et le linteau de la porte. C'est ce qui est décrit au chapitre 12. Ce sang, ce sera le sang d'un agneau. C'est expliqué au chapitre 12. On prend un mouton, une bête sans défaut, verset 5, un mâle d'un an. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 14e jour, c'est le milieu du mois. Les mois, c'est 28 jours, c'est des mois lunaires. Donc c'est 29 jours, si vous voulez, 29. Donc 14, c'est le milieu. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux linteaux, etc. Cette nuit même, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, verset 10. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. Autrement dit, ils sont prêts à partir. Ils ont déjà leur sac à dos, ils ont déjà leur manteau, ils sont prêts. Vous le mangerez à la hâte, vous êtes pressés. C'est la Pâque du Seigneur, fin du verset 11. Et là, vous avez le mot Pâque, le mot Pessah en hébreu, qui est le passage. Pourquoi ? Parce que l'ange de la mort va passer, et il va passer pour tuer tous les premiers-nés, et il passera au-dessus des maisons des Israélites, il passera sans faire mourir les premiers-nés, parce qu'ils auront mis du sang, et ce sang, ce sera celui de l'agneau. Donc la fête de la Pâque, nous avons ici l'institution de la fête de la Pâque. Quand on célèbre la fête de la Pâque, au printemps, le premier mois de l'année religieuse, c'est mars-avril, eh bien le 14e jour du premier mois de l'année religieuse, c'est la fête de la Pâque, on tue un agneau, on mange l'agneau, on est prêt à partir, parce que c'est l'exode, c'est le fameux exode, on est prêt à partir. Dès que la dixième plaie, dès que le dixième fléau sera accompli, le pharaon dira « Allez-y, partez, on n'aura pas le temps de préparer ses affaires ». Donc, on a préparé ses affaires, on mange l'agneau. Pendant qu'on mange l'agneau, l'ange passe, tue tous les premiers-nés, on est épargné. Et ensuite, évidemment, le pharaon dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez-vous-en, je vous chasse. » Et c'est là que le peuple va partir. Donc ça, c'est l'institution de la fête de la Pâque. Verset 13, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour d'évocation, vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur, vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. » C'est-à-dire que là, on dit, voilà, c'est une fête à réitérer chaque année. Et c'est le principe de la fête religieuse. La fête religieuse, c'est une évocation, une commémoration. Nous commémorons cet événement, nous nous souvenons. Verset 24, « Vous observerez cela comme une prescription pour toi et pour tes fils perpétuellement. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » Donc voilà, c'est l'idée même, pourquoi est-ce qu'on célèbre une fête ? Parce qu'on veut se souvenir de quelque chose que Dieu a fait. Alors dans la suite du récit, il se passe ce qui devait se passer, le Seigneur frappe tout premier-né en Égypte, et du coup, le peuple emporte tout, ils partent avec toutes leurs affaires, et même, verset 35, il demande aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements. Et non seulement ils partent eux, mais il y a toute une partie de la population égyptienne qui les suit. Verset 38, une importante population mêlée monta aussi avec eux, avec des troupeaux considérables de petits bétails et de gros bétails. Verset 40, les Israélites avaient habité 430 ans en Égypte. Alors ça, c'est de la chronographie. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur pourquoi c'est 430 et pas un autre chiffre, etc. etc. Mais grosso modo, retenez 4 siècles. Donc, on insiste bien sur le fait que c'est la règle de la Pâque. Et que cette règle de la Pâque, elle vise à la protection contre les premiers-nés. Et du coup, chapitre 13, verset 1er, Yahvé dit à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né. Il m'appartient. » Et oui, il aurait dû mourir. Les premiers-nés auraient dû mourir. Je vous ai épargné, donc quelque part, il m'appartient. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu auras un fils premier-né, tu devras, d'une certaine manière, accomplir un rite. Donc, tu célébreras d'une part la Pâque, pour racheter donc ce rite annuel. Et verset 14, lorsque demain ton fils te demandera que signifie cela, tu lui répondras, à la force de la main, le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Comme le Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir, le Seigneur a tué tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des humains jusqu'aux premiers-nés des bêtes. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tout mâle, le premier-né de sa mère, et que je dégage tout premier-né parmi mes fils. Donc voilà, on institue ce rite. Alors, figurez-vous que le pharaon, une dernière fois, s'obstine. Il dit, attendez, pas si vite, je regrette d'avoir laissé partir le peuple. Et il poursuit les Israélites. Et c'est là qu'il y a le fameux passage de la mer Rouge. Dieu sépare les eaux de la mer. Alors, c'est la mer des joncs en hébreu, la mer des roseaux. C'est pas la mer Rouge, mais on dit toujours c'est la mer Rouge, mais en fait, c'est la mer des roseaux, littéralement. Il traverse cette mer de roseaux. Et une fois que le peuple a traversé, l'armée des Égyptiens les suit, s'engouffre au milieu des eaux. Les eaux se referment sur eux et ils meurent tous noyés. Donc ça, c'est ce que vous lisez au chapitre 14. Chapitre 15, cantique de Moïse, un cantique célèbre où Moïse remercie Dieu, il chante et il loue Dieu pour sa victoire. Alors voilà le peuple sorti d'Égypte. Le chapitre 15 est un chapitre jalon du livre de l'Exode, puisque ça y est, le peuple maintenant est sorti d'Égypte, ils sont débarrassés des Égyptiens, on peut tourner la page. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut traverser le désert du Sinaï pour aller jusqu'en terre promise. En principe, ça se fait rapidement. Hein, c'est l'affaire de, je sais pas, quelques semaines, quelque chose comme ça. Hein. En voiture, ça se fait en 5 heures de route. Pas plus, non, un peu plus. Ça se fait en une journée en tout cas. Donc, à pied, ça ne va pas prendre tant que ça. Mais sauf que n'empêche que voilà tout ce peuple-là dans le désert, et le peuple tout de suite commence à se plaindre en disant « Mais alors voilà, on n'a rien à boire, on n'a rien à manger. » Vous avez quelques épisodes comme ça. Par exemple, au chapitre 16, vous avez le célèbre épisode de la manne, c'est-à-dire le peuple dit « On n'a rien à manger, on est dans le désert, on va tous mourir, au secours. » Et évidemment, le peuple dit « On aurait mieux fait de rester. » Regardez verset 3, « C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans le désert. » N'importe quoi. Et donc Dieu dit « Vous inquiétez pas, je vais, verset 4, je vais faire pleuvoir sur vous du pain depuis le ciel. » Et donc, tous les matins, Dieu fait tomber, alors on ne sait pas trop ce que c'est, des flocons, quelque chose comme ça, est-ce que c'est de la fleur de farine, enfin, en tout cas, une sorte de quelque chose dont on peut faire de la fleur de farine pour faire cuire du pain, en tout cas. Voilà. Et donc, le Seigneur donne, et il donne aussi des cailles, enfin bref. Alors, il apprend comme ça au peuple, alors cette expérience, d'abord, d'une part, c'est encore un énième miracle de Dieu, et puis surtout, ça apprend au peuple à dépendre de Dieu, puisque Dieu dit, voilà, tous les jours, je ferai tomber en quantité suffisante pour que vous puissiez faire à manger pour le jour, mais c'est pas la peine de faire des réserves, parce que le lendemain, de toute façon, il y en aura de nouveau. Donc, ne faites pas de réserves. Si vous faites des réserves, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. Et évidemment, il y a des gens qui n'ont pas confiance en Dieu, qui font des réserves, le lendemain, la manne est... pourri, comment ils disent. Et donc, elle est moisie. Sauf le sixième jour, puisque là encore, Dieu veut leur enseigner non seulement à avoir confiance en lui au quotidien, mais à avoir confiance en lui également pour le sabbat, en disant, le sixième jour, vous aurez deux fois plus de manne, et là, vous pourrez faire des miracles, des réserves, et là, au miracle, le septième jour, la manne ne sera pas moisie, elle sera encore bonne à manger, ce qui vous évitera d'avoir à ramasser de la manne au septième jour, puisque le septième jour, c'est le sabbat. Et il faut se reposer. Rappelez-vous, le premier chapitre de la Genèse, Dieu a tout créé en six jours, le septième, il s'est reposé. Donc nous aussi, on doit se reposer le septième jour. Donc là encore, visée pédagogique, c'est didactique. Dieu veut enseigner au peuple à lui faire confiance au quotidien. pour le jour. Dieu pourvoit aujourd'hui. Je ne sais pas s'il pourvoit pour demain. Je le crois. Et je lui fais confiance. Verset 29. Si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi au sixième jour de quoi manger pour deux jours. Alors donc ça, c'est pour la question alimentaire. Au chapitre 17, il y a une autre question, c'est qu'il n'y a pas à boire cette fois-ci. Verset 1, il n'y avait pas d'eau à boire. Le peuple, verset 3, le peuple avait soif, le peuple maugréait contre Moïse, etc. etc. Enfin bref, ça se passe mal. Chapitre 18, je continue mon petit parcours, on retrouve Jéthro, vous savez, le beau-père de Moïse, le père de Séphora, vient lui rendre une petite visite. C'est pas très loin, hein, on est Madian, c'est de l'autre côté du désert du Sinaï, je vous dis, ça, à mon avis, ça se fait en quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Et alors il voit Moïse là en train de... Alors d'une part Moïse lui raconte tout ce qui s'est passé, il dit attends, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Et Jéthro qui était prêtre de Madian, après avoir entendu tout cela, verset 11 dit « Je sais maintenant que Yahvé est plus grand que tous les dieux. » Verset 12 « Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. » Donc vous voyez ici Jéthro qui dit « Voilà, bah finalement ce Yahvé, il n'a pas l'air si mal. » Il y a plein de dieux, on n'est pas du tout dans du monothéisme, mais il est plus grand que tous les dieux. Alors, puisque Jéthro est là, il en profite quand même pour donner des conseils à Moïse. Moïse est occupé, à partir du verset 13, à juger tout le peuple, verset 13, le peuple se tint debout devant Moïse du matin au soir. Donc les gens font la queue pour régler tous les litiges. Et Moïse est là tout seul, non, oui, non, ça va, non, c'est pas bien. Et Jéthro lui dit, mais attends, mon pauvre, tu ne vas pas t'en sortir tout seul, le peuple est trop nombreux. Alors il lui dit, voilà ce que tu dois faire, tu dois... former des leaders. Tu dois prendre des gens, leur expliquer ce qu'il faut faire, et ensuite, tu délègues. Comme ça, ils vont gérer les affaires courantes, et toi, tu gères uniquement les affaires d'importance. C'est le principe de base du leadership, truc fondamental, qui est appliqué encore aujourd'hui dans n'importe quelle société. Quand vous contactez une hotline quelconque, un support téléphonique, vous avez quelqu'un qui a été formé pour répondre aux questions de base. Si c'est plus difficile, il va vous passer quelqu'un qui est un peu plus compétent, et on remonte jusqu'à avoir le grand patron s'il faut, qui est vraiment ce qui va gérer les cas les plus difficiles. Bon, voilà. Tout ça, ça vient d'Exode 18. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, il faudrait demander à la hotline de votre... opérateur téléphonique préféré, en disant « Est-ce que vous connaissez Exode 18 et les conseils de Jéthro à son fils Moïse ?» À partir du chapitre 19, on entame, donc vous voyez le chapitre, là on avait quelques chapitres de transition, on a quitté les Égyptiens, on est débarrassé des Égyptiens, on est dans le désert, il se passe des petites choses pas très gaies, des histoires à la fois de peuple qui se plaint mais de miracles, etc. À partir du chapitre 19, on a une nouvelle section qui commence, qui est consacrée à l'Alliance. On est autour du Sinaï, on est sur le mont Sinaï, où Dieu va se révéler et va donner son alliance. Dieu va conclure un pacte, une alliance, alors c'est un contrat, si vous voulez, c'est un contrat écrit, et des alliances, des contrats, on en a hein, dans l'Antiquité, entre deux nations, avec des clauses, c'est comme un contrat actuel, les droits et les devoirs de chacun, et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, etc. etc. Et là, Dieu va conclure une alliance avec son peuple, et ça va se faire sur le mont Sinaï. Et on va avoir toute une section, du coup, législative. Donc ceux qui ont fait des études de droit vont être ravis. Et donc l'idée, c'est on va passer un contrat. Et le terme général du contrat, verset 5, « Si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Dieu dit, toute la terre m'appartient, mais parmi tout ce qu'il y a sur terre et tous les peuples de la terre, il y en a un en particulier, vous serez à part. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Donc voilà, parmi toutes les nations, vous serez à part, vous serez un peuple de prêtres, c'est-à-dire vous serez des médiateurs. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il joue un rôle de médiateur entre les humains, entre les hommes et les dieux, entre l'humain et le divin. Donc vous serez, vous, une nation, et vous me servirez de nation pour faire l'intermédiaire entre les autres peuples et moi. Il ne dit pas que les autres peuples ne lui appartiennent pas. Il ne dit pas que les autres peuples n'auront pas à s'adresser à Dieu, il dit simplement qu'entre tous les peuples et Dieu, il y aura le peuple d'Israël qui servira d'un peuple d'un royaume de prêtres. Donc il dit ça c'est le deal, c'est le contrat que je vous propose de passer. Et donc il va falloir maintenant fixer les termes de ce contrat. Alors, donc, Moïse monte sur le mont Sinaï, Dieu descend de son côté. Alors, évidemment, tout ça, ça serait avec grand fracas. Verset 16, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne avec un fort son de trompe, etc., etc. Bref, imaginez un peu tout le truc très hollywoodien. Voilà, rencontre entre Dieu. Dieu descend sur le sommet du mont Sinaï. Moïse monte, les gens sont là au pied de la montagne, ils voient qu'est-ce qui se passe. Bon. Et c'est là qu'on va avoir l'alliance. Alors, il y a d'une part les 10 commandements, chapitre 20, au début, et puis ensuite, il va y avoir des lois casuistiques. Les 10 commandements, c'est de la podictique, c'est-à-dire ce sont des lois généralistes, des grands principes fondamentaux, des grands principes éthiques. Et puis ensuite, on verra la casuistique, c'est-à-dire on traite des cas particuliers. Alors, les 10 commandements, bah, verset 20, vous les connaissez, on les apprend, etc., etc. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas de statue, verset 4. Verset 7, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Verset 8, souviens-toi du sabbat. Verset 12, honore ton père et ta mère. Verset 13, tu ne commettras pas de meurtre. Verset 14, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 15, tu ne commettras pas de vol. Verset 7, tu ne porteras pas de faux témoignage. Verset 17, tu ne convaincras pas la maison de ton prochain. Évidemment, vous retrouvez là la base même des lois éthiques qui régissent le rapport avec les autres. Et les autres, c'est Dieu inclus, hein, notre rapport avec Dieu, notre rapport avec les autres. Donc on fixe les grands principes fondamentaux qui vont régir le rapport aux autres. Et puis ensuite, à partir du chapitre 21, vous allez avoir des règles plus précises, la casuistique, des cas, alors pour ceci, pour cela, etc. Par exemple, chapitre 21, on parle, si tu prends un esclave, il servira 6 années, la 7e, il sortira libre. Donc on ne peut pas avoir un esclave hébreu toute sa vie. Verset 12, celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort, etc. Verset 15, celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Oula, ça rigole pas. Verset 17, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Alors, il y a des dédommagements, hein, évidemment, si on fait ceci, il y a des dédommagements. Tout chapitre 21, je vous passe tous les détails. Chapitre 22, ça continue. Donc, vous avez des lois morales, religieuses. Verset 17, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, etc., etc. Verset 27, tu ne maudiras pas Dieu. Chapitre 23, on continue. Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Verset 4, s'il t'arrive de voir le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Tous ces textes-là ont des parallèles dans le Proche-Orient ancien. Vous avez des codes de loi sumériens, babyloniens, etc. Un des plus célèbres, le code du roi Hammurabi, est rédigé sur une grande stèle qui fait plus de 2 mètres de haut, qui est au musée du Louvre à Paris. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, il faut aller au musée du Louvre. Et vous avez une grande stèle, le roi Hammurabi a régné à Babylone au 18e siècle avant notre ère, et il a fait rédiger ce texte de loi qui comporte plus de 200 cas sont traités. Et parmi les cas, vous avez exactement la même chose, pratiquement à la virgule près, y compris les cas de deux hommes qui se battent. Par exemple, je vais tout à l'heure, mais par exemple, chapitre 21, verset 22, lorsque des hommes se querellent, heurtent une femme enceinte et que son enfant sort, etc. Vous dites, il faut y penser à ce cas de figure. Il est déjà traité dans le code de Hammurabi. Et quand vous avez verset 23, s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, c'est le fameux, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vous la retrouvez également dans le code d'Hammurabi. Donc quand vous lisez tous ces textes-là, ils sont présentés comme Dieu qui révèle ça à Moïse sur le mont Sinaï. En réalité, or on est censé se passer, c'est plus ou moins l'époque de Ramsès II, 13e siècle avant notre ère, or 18e siècle avant notre ère, 500 ans auparavant au minimum, il y a déjà, mot pour mot, la même chose sur la stèle du roi Hammurabi. Et Hammurabi dit, c'est mon dieu Shamash, le dieu soleil, le dieu Shamash, qui m'a donné cette loi. Donc, la loi, elle est toujours d'origine divine. Ça, il n'y a pas de problème. C'est le dieu qui révèle à l'homme la loi, il la met par écrit. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est là encore, c'est que la Bible n'est pas tombée du ciel et que tous ces textes, en fait, qui ont été mis par écrit, ont été intégrés. C'était du code, on pourrait dire, de la loi commune de la culture de l'époque, de la société de l'époque, au Proche-Orient ancien. Avec des nuances. Cela dit, ce qui est très intéressant quand on compare le code d'Hammurabi et le livre de l'Exode, par exemple, c'est pas de regarder que les cas qui sont traités sont les mêmes, c'est de voir que bien souvent les compensations, les indemnisations ne sont pas les mêmes. Et c'est là qu'on peut voir les différences entre les deux sociétés. En disant, attention, il y a quand même des différences entre la société babylonienne au XVIIIe siècle avant notre ère et la société israélite au XIIIe siècle avant notre ère. Enfin, si le texte ici est du XIIIe siècle, il est peut-être plus tardif, évidemment. Alors voilà, donc on continue. On a les fêtes, chapitre 23, verset 14. 3 fois par an, tu me célébreras une fête. On a déjà parlé des fêtes. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la Pâque n'est pas mentionnée. Il y a une fête qui est la fête des pains sans levain, qui se déroule en fait en même temps que la Pâque, donc probablement deux fêtes d'origine distincte qui à un moment donné ont été rassemblées. La fête de la moisson, verset 16, et la fête de la récolte. Toujours au chapitre 23, petit commentaire sur le verset 29. Dieu dit là encore qu'il va donc donner la terre promise à son peuple, mais il dit, donc il va chasser toutes les populations locales. On avait vu dans Genèse 15 qu'il attendait que l'iniquité de ces peuples ait atteint le comble, leur comble pour pouvoir les châtier, pour les punir. Mais là, il dit, je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne reste désert et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai devant toi peu à peu, jusqu'à ce que tu aies été assez fécond pour pouvoir occuper le pays. Alors, c'est intéressant. Dans Genèse 15, on avait l'explication du fait qu'il allait falloir attendre plusieurs siècles avant d'entrer en terre promise. Et là, on a l'explication du fait que la conquête de la terre promise ne sera pas comme ça. On dit, non, ça ne sera pas d'un seul coup, mais en fait, je t'explique, il y a une raison, c'est pour éviter que les animaux, enfin, que la terre soit laissée vide et que les animaux sauvages s'en emparent. Donc, on voit comment ces versets anticipent. Alors, ils ont pu être rédigés, bien sûr, bien après les faits. Hein. Il ne s'agit pas de dire que les versets ont été rédigés avant, mais dans une stratégie narrative, pour le lecteur du texte, eh bien, on prépare le lecteur au fait que, bah oui, finalement, ça ne va pas se passer comme prévu, ça prendra du temps. Donc, Moïse met par écrit, hein, verset 4, chapitre 24, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance. Donc là, il y a une mise par écrit, il y a un livre de l'Alliance qui est lu. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment un engagement écrit. Et ainsi s'achève ce contrat d'alliance. Vous voyez, donc depuis le chapitre 19, si vous voulez, jusqu'au chapitre 24, on a Dieu qui donne cette loi, Moïse qui met par écrit, et ça y est, c'est fini. À partir du chapitre 25, on a une nouvelle section, qui est finalement la dernière section du livre de l'Exode, qui est consacrée au sanctuaire. Là, on va s'intéresser à la pratique quotidienne de la liturgie. Parce que c'est bien joli, Dieu est là, on a signé une alliance, d'accord, Dieu est notre Dieu, Yahvé c'est notre Dieu, nous sommes son peuple, il siège au milieu de nous, mais il siège comment? Où? Il faut bien lui faire une tente, on a tous des tentes, lui aussi, il faut une tente. Et donc Dieu va dire, ben voilà, tu vas faire, verset 8, hein, chapitre 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles tels que je vais te les montrer. Donc, Dieu dit, attendez, vous ne pouvez pas me faire un temple ou un sanctuaire comme vous voulez, vous allez faire exactement ce que je vous dis à la lettre. Et là, il va y avoir des descriptions un peu fastidieuses, avec des mesures, des tissus, ça tu dois le faire, ça doit mesurer tant de centimètres. Enfin, à l'époque, l'unité de mesure, c'est la coudée, évidemment, c'est pas le mètre, le système métrique arrivera des siècles plus tard. Et on dit, voilà, tel objet, dans tel matériau, ce sera du bois, et tel bois, et là, ce sera de l'or, et là, ce sera ceci, et ça fera tel tissu, et tel machin, etc. Donc, vous avez droit à tous les descriptifs à partir du chapitre 25. Et on commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une approche concentrique qui part. Donc, on commence par le coffre, la fameuse arche de l'Alliance, vous savez, les Indiana Jones, tout ça, enfin bref. Donc, c'est là qu'il y aura les tables de la loi. On commence par là, qui sera au cœur même du sanctuaire, qui sera lui-même donc mis dans... il y aura deux kéroubim, verset 18, chapitre 25, verset 18, c'est des espèces de sphinx. Si vous allez là encore au musée du Louvre, vous verrez des espèces de sphinx qui gardent l'entrée, etc. C'est ça les kéroubim, les chérubins. C'est pas les chérubins, c'est les gens dans les représentations, tu sais, c'est des espèces de petits bébés dodus là avec des petites ailes et des petits... Non, c'est pas... Bref, alors c'est pas ça, hein, les chérubins, c'est des sphinx, c'est des corps de lions avec des têtes d'hommes en général, etc. Donc il y a des... enfin bref, donc on commence par ça. Ça, ce sera au centre. Il y aura une table, verset 23. Ensuite, il y aura 31, un porte-lampe. Ensuite, chapitre 26, il y aura le Saint des Saints, la demeure. Et on dit comment ce sera une tente. Et puis ensuite, au-dessus, il y aura une tente. Et puis, il y aura des planches, verset 15, chapitre 26, verset 15. Verset 31, un voile. Verset 36, à l'entrée de la tente, il y aura un rideau. À l'extérieur de la tente, il y aura un autel, chapitre 27, verset 1er. Il y aura des cornes aux quatre angles. Alors ça, pareil, je pourrais vous montrer sur le site archéologique. Vous verrez à quoi ça ressemble, des autels. Il y aura une cour devant la tente, verset 9. Avec une porte, verset 16. Etc, etc. Donc, vous voyez, on commence depuis le centre, le cœur, on fait la tente, et puis ensuite, il y a la cour avec l'autel, il y a une clôture, etc, etc. Ensuite, c'est bien joli, mais il faut des prêtres. Donc, c'est Aaron, le frère de Moïse, qui sera, lui, le grand prêtre, et ce seront ses fils après lui qui seront les grands prêtres. Les autres seront des prêtres également. Donc il a droit à des vêtements sacrés, chapitre 28, verset 2. Alors on va lui donner exactement les éléments, verset 4, pectoral, éphod, robe, tunique, turban, écharpe, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais là encore, il y a des instructions très très précises sur la robe, verset 31, la robe de l'éphod, tout entière de pourpre violette, etc. Il y aura des clochettes d'or, verset 33, etc. etc. Donc, je continue. On fait également des vêtements pour les prêtres à la fin du chapitre 29. On leur fait des caleçons de lin. Bon, je ne fais pas de commentaires sur les caleçons, je vois qu'il y en a qui... Bon. Chapitre 29, on va les consacrer, évidemment, il y aura une cérémonie de consécration, d'investiture. On prendra l'huile, verset 7, on en versera sur la tête, et donc l'huile, elle répand, elle, c'est un symbole, l'onction. L'huile, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la présence divine qui recouvre, évidemment, donc c'est un geste fort de consécration. Il y aura un sacrifice, on va immoler le taureau, verset 11, etc., etc. Donc on décrit toute la cérémonie, chapitre 29. Évidemment, on ne fera pas un sacrifice qu'une seule fois, on en fera tous les jours, verset 38, chapitre 29, verset 38, deux agneaux d'un an, chaque jour, constamment. Le premier agneau le matin, le second le soir. C'est un holocauste constant, verset 42. Alors verset 30, on fera un autel pour l'encens, on fera une cuve, verset 18. Enfin, je passe tous les détails, etc., etc. Alors, ça prend du temps. Moïse prend des notes, le peuple s'impatiente, vers chapitre 32, en disant, mais bon, quand même, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Moïse, il prend des notes de tout ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il y a l'épisode du veau d'or. Le peuple, en attendant, dit, bon, finalement, peut-être que Moïse est mort, peut-être qu'il nous a abandonnés. Et pendant que Moïse est sur la montagne du Sinaï, le peuple dit, chapitre 32, à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et donc, Aaron fait un taurillon de métal fondu. Et il lui dit, voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors c'est terrible, le peuple commence à faire une représentation, alors que Moïse vient de recevoir des instructions très claires sur comment on doit adorer Dieu, en disant non, il ne faut pas faire d'image taillée, mais vous allez faire un autel, vous allez faire un coffre, vous allez faire mettre des chérubins, etc. Donc en fait, pendant que Dieu dit voilà, il faut faire les choses très précisément comme je vous le dis et pas autrement, le peuple fait exactement le contraire. Il fait les choses à sa façon. Il vénère Yahvé. Il ne s'agit pas pour le peuple de ne pas vénérer Yahvé, mais simplement, ils disent, nous, on ne sait pas comment il faut adorer Dieu, comment il faut adorer Yahvé, on va lui faire un veau d'or, un taurillon d'or, parce que c'est comme ça qu'on font la plupart des peuples. Et évidemment, Dieu voit ça, il s'énerve, il dit, je vais les exterminer, verset 10. Alors Moïse dit, non, si tu les extermines, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Verset 12, en disant, c'est ridicule, tu vas être ridiculisé aux yeux des Égyptiens. Donc, verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, quand même. Bon, alors finalement... Donc Dieu revient sur son idée de détruire le peuple, mais malgré tout, on sépare quand même, il y a quand même une partie du peuple qui meurt, et le peuple s'énerve quand même. Et puis surtout, le peuple explique en disant, vous n'avez pas à faire à votre façon, vous ne me servez pas comme vous le voulez, vous ne m'adorez pas comme vous le voulez, vous ne faites pas votre sauce, vous ne faites pas votre barbecue, c'est pas chacun sa religion, vous faites les choses comme je vous le dis. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces détails. Et c'est pour ça que derrière, du coup, quand on reprend, alors du coup, on renouvelle l'alliance, on réitère au chapitre 34, on réitère toutes les fêtes, et puis les Israélites apportent leur contribution au chapitre 35, et puis on commence à se mettre à l'ouvrage. Et maintenant, il faut faire tout ce que Dieu a ordonné. Donc les chapitres suivants, 36, 37, 38, etc., vous retrouvez, c'est du copier-coller, vous retrouvez la même chose de ce que Dieu a dit à Moïse, qu'il fallait faire, sauf que là, ils le font vraiment. Alors, c'est redondant, c'est un peu pénible de relire trois fois la même chose et de vérifier que les mesures sont bien les bonnes. Ah oui, il a dit que ça faisait 29 talents, ben là, il y a bien 29 talents. Il a bien qu'il y avait 30 coudées, il y a bien 30 coudées, il y a bien, etc., etc. Mais cela dit, on insiste bien, voyage chapitre 39, verset 32, « Ainsi fut achevé tout le service de la demeure, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. » Exactement. Verset 42, tout ce travail, les Israélites le firent exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez, il y a l'idée de faire exactement. Chapitre 40, verset 16, Moïse fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. C'est un peu lourd, mais au moins on comprend. Alors ensuite, il installe la demeure, etc., etc. Verset 33, donc je suis au chapitre 40, verset 33, fin du verset 33, c'est ainsi que Moïse acheva les travaux. Verset 34, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Donc là, vous avez le parallèle entre la présence de Dieu qui était sur le mont Sinaï et Moïse qui était sur le mont Sinaï, le peuple en bas qui n'en fait qu'à sa façon et qui dit tiens, on va faire un veau d'or, etc. Dieu dit pas question. Mais quand on fait les choses comme Dieu le veut, quand on obéit scrupuleusement au commandement divin, alors Dieu vient. Alors Dieu rentre et sa présence remplit la demeure. Verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la demeure dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Vous avez cette présence palpable, réelle, épaisse, qui ne permet même pas à Moïse de rentrer. Alors cette nuée, on l'avait déjà vue. Elle représentait la présence de Dieu puisque quand le peuple marchait dans le désert, en fait, la nuée se tenait au-dessus du peuple. Et c'est une façon pour le peuple de se laisser guider par Dieu dans le désert. On nous dit, verset 36, « Quand la nuée s'est levée au-dessus de la demeure, donc hop, elle se lève, elle s'en va. Donc les Israélites partaient pour chacune de leurs étapes. Donc on va à l'étape suivante dans le désert. Si la nuée ne s'élevait pas, on regarde le matin, ah non, la nuée ne bouge pas, ben on ne bouge pas. Ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'est levée. Le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure et la nuit, il y avait un feu sous les yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Alors le livre de l'Exode s'achève comme ça, il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, la fin du livre de l'Exode, c'est, on vous explique, ça y est, le peuple est paré pour traverser le désert. Donc le livre de l'Exode, c'est vraiment un livre de transition, enfin de début, c'est un livre qui indique le début. C'est vraiment ça, c'est Dieu fait sortir son peuple, on se débarrasse des Égyptiens, il donne sa loi au peuple, le peuple est désobéissant et Dieu lui montre ce qui se passe quand on est désobéissant, Dieu donne des instructions très claires. Il s'attend à ce qu'on obéisse scrupuleusement aux instructions qu'il donne. Et ça veut dire qu'il est en train de préparer le peuple à l'entrée dans la terre promise. En disant, vous allez entrer dans le pays, mais si je veux que ça se passe bien dans le pays, il vaut mieux qu'on se mette d'accord tout de suite sur les règles du jeu. Voilà pour le livre de l'Exode. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur le livre de l'Exode. On fera le Lévitique la semaine prochaine. On peut répondre à quelques questions si vous en avez. Moi, j'ai quelques minutes pour répondre aux questions, mais je crois qu'il y a un cours après, donc on ne peut pas rester très longtemps. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, vous pouvez partir. Quelqu'un a des questions ?